Europe 1, il est midi. Bonjour à tous.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Et vous avez la parole, comme tous les jours, vous le savez. Mais tout d'abord, le journal d'Europe Midi, avec à la une des taux exceptionnels de réservation dans les hôtels et les campings cette année. La destination France à la côte, les tout derniers chiffres avec Geoffrey Branger. Elisabeth Borne sur le terrain et à la manœuvre pour préparer le premier texte sur le pouvoir d'achat. La Première ministre s'entretient avec les différents présidents de groupe. Victor Chabert est à ses côtés. L'armée ukrainienne recule dans le Donbass, à Severodonetsk. Elle abandonne aux Russes cette ville clé, détruite désormais à 90%. Certains virologues s'inquiètent au vu de la reprise de l'épidémie de Covid. Faut-il rendre à nouveau le port du masque obligatoire ? On va tenter de répondre à cette question. Le pouvoir d'achat, le Covid, on en parle avec vous au 39-21. Vous appelez et vous passez à l'antenne. Et avec Bastien Lachaud. Bonjour Bastien Lachaud.
Bonjour à vous.
Député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Et avec Marie Lebec. Bonjour Marie Lebec. Députée La République En Marche. Renaissance des Yvelines. Voilà, bonjour à tous les deux et à tout de suite.
Europe 1.
Est-ce que vous avez réservé vos vacances ? Je vous pose cette question parce que ça s'active beaucoup. Si vous avez la chance de partir, ne tardez pas. La saison s'annonce exceptionnelle en France. Déjà, 8 millions de billets SNCF vendus. On en a parlé dans Europe Midi, plus 10% par rapport à l'été 2019, le dernier été sans Covid. Ça s'active également du côté des réservations de logements. Geoffrey Branger avec nous. Bonjour Geoffrey.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Où en est-on des réservations de logements pour cet été en France ?
Alors ça cartonne, hein. C'est d'ailleurs déjà difficile de trouver des hébergements dans certaines régions comme en Corse, sur la Côte Basque ou encore en Bretagne. 90% des gîtes de France par exemple sont réservés. Pour les villages vacances Bel Embras, les établissements sont déjà bien remplis. Alexis Gardy, le président du groupe.
On est très confiant pour cet été. On est aujourd'hui à un peu plus de 70% d'occupation sur juillet et un peu plus de 60% sur le mois d'août. Donc la dynamique est très bonne, il est temps de réserver.
Du côté du Club Med, tous les hôtels sont complets, que ce soit en France ou en Afrique du Nord. Ce qui est sûr, c'est qu'avec l'inflation, les Français vont tenter de réduire la facture. Alors, les réservations explosent dans les campings, et souvent plus économiques, mais avec cette très forte demande, les prix augmentent, comme l'explique Alain Calmé, le président du groupe Omer.
Cette année, les tarifs montent, il y a beaucoup de demandes. On est presque plein, et dans certains endroits, ça va être à peu près la même chose que l'an dernier, mais dans d'autres, ça peut atteindre plus 10%.
Alors, si les Français seront nombreux à partir cet été, ils dépenseront moins, selon une étude de CSA Research pour Cofidis, 1 641 € en moyenne cette année, une baisse de 8% par rapport à 2019.
Geoffrey Branger, merci beaucoup Geoffrey pour ces informations. Des pluies d'orage, des pluies torrentielles se sont abattues sur Auxerre hier soir. Les précipitations ont créé des torrents d'eau dans certaines rues et ont occasionné des coupures de courant. Un millier de foyers privés d'électricité, un phénomène jamais vu. C'est ce que nous a dit le maire de la ville de Cressan-Marot. Écoutez.
Vraiment, c'était incroyable. Il y avait des rues, c'était des torrents. Je crois que ça n'était jamais arrivé, un tel phénomène de ruissellement. On a eu pratiquement un peu plus de 20 mm de pluie en l'espace de 2 heures, alors que sur un mois de juin, la moyenne mensuelle, c'est à peu près 60 mm. On a eu beaucoup de garages inondés, de caves inondées, des crèches, un centre de loisirs où partiellement le plafond s'est effondré avec l'accumulation d'eau de pluie dans l'isolation. Déjà ce matin, on est en train un petit peu de faire le diagnostic sur les réseaux d'eau potable, entre autres, sur les voiries abîmées pour sécuriser et s'assurer qu'il n'y ait pas de risque d'effondrement. Et puis dès lundi, eh bien, on va travailler pour remettre à niveau toute la voirie et que la vie puisse reprendre et continuer normalement.
Et si elle restait à Matignon, la Première ministre Elisabeth Borne est à nouveau sur le terrain, accompagnée d'Olivier Dussopt, ministre du Travail. Ils sont tous les deux à Bailly-Romainvilliers sur le thème de l'emploi et de l'apprentissage. Où vous vous trouvez, Victor Chabert ? Bonjour Victor.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Une nouvelle sortie de terrain pour la Première ministre pour tenter de sauver sa place ?
Oui, clairement, hein, pour montrer qu'Elisabeth Borne n'est pas sur la sellette, tient la barre, même si elle assure que ce n'est pas le cas.
Ce n'est pas une manière de montrer, c'est le fait que je suis à la tâche, qu'on est à l'action, qu'il y a des sujets à traiter, qu'on les traite. Et notamment la prolongation de ces aides à l'apprentissage, c'est donc, ça se terminait le 30 juin, mais vous voyez, c'est maintenant qu'il fallait les prolonger.
Elisabeth Borne passe à l'offensive, multiplie les déplacements, les interviews, une façon d'enjamber les attaques alors que la Première ministre est contestée jusque dans son propre camp. Certains vont même jusqu'à pronostiquer un départ rapide. Elle continue également les consultations par téléphone avec les présidents de groupes parlementaires. Objectif, voir s'il peut y avoir une méthode de travail avec les oppositions ou s'il va falloir aller chercher une majorité texte par texte. Pour l'instant, il y a une forme d'attentisme. Les oppositions ne semblent pas vouloir coopérer avec le gouvernement. Elisabeth Borne laisse aussi en suspens des questions essentielles. On ne sait pas encore, par exemple, si elle va engager la responsabilité du gouvernement lors de sa déclaration de politique générale prévue en théorie première semaine de juillet, signe d'une certaine fébrilité de l'exécutif selon les opposants et qui pourrait poser une vraie question de légitimité.
Victor Chabert, merci beaucoup Victor. 4 mois, jour pour jour, après le début de la guerre en Ukraine, Kiev ordonne à ses troupes de quitter Severodonetsk. Dans cette ville industrielle de l'est du pays, les combats font rage depuis des semaines. Cela ne fait plus aucun sens de rester sur des positions constamment bombardées. C'est ce qu'a déclaré le gouverneur ukrainien donc de cette région de Louhansk. Zoé Pallier avec nous. Bonjour Zoé.
Bonjour.
C'est une étape stratégique pour la Russie.
Oui, parce que ça permet à Vladimir Poutine d'avancer dans son plan de conquête totale du Donbass, principal objectif affiché de l'offensive russe. Alors le rapport de force était très déséquilibré à Severodonetsk. Plusieurs fois, la ville a failli basculer aux mains des Russes. Kiev cherche donc à préserver ses effectifs, mais pour le général Pelistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale, Severodonetsk restera un symbole de la résistance ukrainienne.
La perte de Severodonetsk, même si elle peut constituer une défaite sur le plan militaire, ne remet pas en cause la stratégie défensive ukrainienne. Les forces ukrainiennes vont se replier en arrière, notamment sur la rivière Dniepr. C'est un repli tactique. Certes, la ville est abandonnée aux mains des Russes, mais pour autant, les Russes ont mis plus d'un mois pour avancer de 5 km. Et c'est donc finalement un des objectifs que recherchaient les Ukrainiens, user l'armée russe dans la conquête de la ville de Severodonetsk.
Reste la question des civils coincés dans cette ville détruite à 90%. D'après le gouverneur de Lugansk, 568 personnes sont encore réfugiées dans une grande usine chimique de la zone industrielle.
Zoé Pallier, merci Zoé. L'Ukraine qui est un pays en guerre depuis 4 mois. Aujourd'hui, près de 100 000 Ukrainiens ont déjà été accueillis en France, pour la plupart des femmes, à qui certains ont décidé de tendre la main. C'est le cas de restaurateurs en manque de main-d'œuvre. Un exemple, près de Lille, cet établissement vient d'embaucher Natalia, 39 ans. Cette mère de famille est arrivée dans le Nord il y a 2 mois avec ses 4 enfants. Cet emploi, une aubaine pour elle comme pour le restaurant. Écoutez le reportage de notre correspondant Lionel Gougelot qui a rencontré l'équipe du restaurant pour Europe 1.
En un peu plus d'un mois, Natalia est devenue indispensable en cuisine.
Donc Natalia aide à la plonge, est un peu commis de cuisine pour éplucher les légumes, aider le chef et le second.
Une bénédiction pour Anne-Sophie Vanesbrook qui a embauché la jeune femme ukrainienne en urgence après la démission de son employée française.
Aide énormément précieuse car malheureusement depuis le confinement et le Covid, on ne trouve plus de personnel en cuisine.
Logée dans un centre d'accueil de la commune, Natalia ne parle ni français ni anglais. Et pour les tâches qu'on lui confie, cela ne pose aucun problème.
Non, grâce à Google Traduction, c'est nickel. Après, avec les mimes, les gestes, tout va bien, quoi.
Natalia n'en finit plus de remercier ses patrons. Ce travail 20 heures par semaine rémunéré au SMIC, c'est pour elle un premier pas pour son intégration et son efficacité a bluffé toute l'équipe, assure le chef Guillaume.
Elle se met debout sur le plan de travail, elle nettoie les plafonds, les sols. Franchement, pour nous, c'est un grand soulagement. Heureusement qu'on l'a.
C'est une belle personne, elle est toujours souriante, volontaire et elle rechigne pas du tout sur le travail, quoi.
Un autre poste en cuisine est encore à pourvoir et si d'autres candidates ukrainiennes se présentent, elles seront ici toujours les bienvenues. À ton pleuve, Lionel Gougelot, Europe 1.
Europe 1, il est midi 8.
Europe midi, Romain Desarbres.
Les vacances d'été qui pourraient être gâchées par un invité surprise. Devinez qui ? Le Covid, bien sûr. Depuis la fin mai, les contaminations ont été multipliées par 3. 80 000 nouveaux malades ces dernières 24 heures. 50 000 nouveaux malades en moyenne ces 7 derniers jours. Hausse des hospitalisations. La faute aux variants BA4 et BA5. Petit frère d'Omicron. Yasmina Katou, forcément la question se pose. Va-t-on devoir remettre le masque ?
Eh bien, Alain Fischer, le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale qui conseille le gouvernement, estime qu'il serait raisonnable de se couvrir le visage dans les transports en commun alors que l'épidémie repart à la hausse. Selon Antoine Flao, épidémiologiste à l'Université de Genève, il faudrait se masquer dans tous les lieux clos.
Le masque, il faut le voir comme un filtre. Si vous êtes dans une salle qui baigne de coronavirus et que vous portez un masque, peut-être vous serez infecté, mais vous serez beaucoup moins infecté que vos voisins qui ne portent pas de masque, parce que simplement, vous aurez beaucoup moins de particules virales qui rentrera dans l'arbre respiratoire. Le Covid que vous allez développer, il sera beaucoup moins sévère, vous aurez moins de complications.
Pour compléter la protection du masque, l'épidémiologiste met en avant une autre mesure, la vaccination des plus de 60 ans. Aujourd'hui, seulement un tiers des 60-79 ans les plus vulnérables ont reçu un second rappel. Alors dans les prochains jours, 8 millions de personnes éligibles à la quatrième dose vont recevoir un message de l'assurance maladie pour leur rappeler d'aller se faire vacciner.
Voilà, le Covid, faut-il à nouveau rendre le masque obligatoire, par exemple dans les transports en commun? On va en parler dans un instant. C'était il y a 40 ans, Jean-Loup Chrétien devenait le premier Français à s'envoler dans l'espace à 84 ans. Il travaille toujours, notamment pour le compte de la NASA. Un infatigable passionné qui a décidé de mettre aux enchères certains de ses objets spatiaux qui sont partis en orbite avec lui. Et oui, des objets estimés entre 800 et 15 000 euros pour les plus chers. Des bénéfices qu'il compte reverser au secteur de l'aéronautique. Mathieu Limongi l'a contacté, écoutez, pour Europe 1.
Il a encore des images plein la tête. Ce premier vol, Jean-Loup Chrétien s'en souvient comme si c'était hier.
Les moments passés avec les collègues, l'arrivée en orbite, le début du vol en apesanteur, le tour de la Terre en 1h30.
Une mémoire intacte qu'il a choisi de transmettre par les objets, un gant de combinaison spatiale, un blouson, une montre ou encore un carnet d'équipage. Tous ont voyagé avec lui dans l'espace. Pas question de les laisser à n'importe qui.
Je préfère savoir que ça part chez des collectionneurs. Quand il y en a, c'est assez réconfortant. J'ai assisté à des grosses déceptions d'offres d'objets qui repartaient dans des cartons et qui étaient oubliés.
Autre objet mis aux enchères, un orgue miniature, car avant de rêver d'espace, l'astronaute se voyait organiste dans les cathédrales. Alors, en 1988, pour son deuxième décollage, il emporte l'instrument avec lui et conjugue ses deux passions.
Ce petit instrument qui allait là-haut, c'était un symbole. Alors, c'était pas facile, je ne pouvais pas jouer grand-chose de sophistiqué. Donc j'avais improvisé sur le thème d'un negro spiritual, When the Saints Go Marching.
40 ans plus tard et 200 km plus bas, un air qui lui trotte encore dans la tête.
Voilà de quoi se faire plaisir si vous êtes fan d'espace, fan de Jean-Loup Chrétien. Voilà une vente aux enchères exceptionnelle dont je voulais qu'on vous parle dans Europe Midi, bien sûr. Les fans de rugby retiennent leur souffle. La finale du top 14, c'est ce soir. Castres face à Montpellier. Les deux premiers de la saison régulière se retrouvent en finale du championnat de France de rugby. Castres, petite ville enclavée face à Montpellier, agglomération étudiante. Axel May, une finale qui oppose donc deux clubs qui ne se ressemblent pas, Axel. Hein.
Oui, vous avez d'un côté un club, le CO, l'un des plus petits budgets du top 14, installé à Castres, petite sous-préfecture de 40 000 habitants, un club enclavé, mais qui vit au rythme de sa population tarnaise. David Daricarère est l'un des entraîneurs adjoints du Castres Olympique.
Ben, toute la semaine, j'ai discuté avec des commerçants qui me disaient ben, « Les gens ne sont pas pareils à Castres cette semaine. Les gens, ils ont tous la banane, tous le sourire. Ils sont heureux. Quoi. Ils sont heureux pour nous. Et nous, on essaie justement de les rendre heureux, de les rendre fiers. C'est ça, ce lien fort qui nous lie avec ses supporters et avec les habitants en général. »
Alors, un lien fort et un palmarès important. Hein, 5 titres de champion de France dans l'histoire du Castres Olympique, dont le dernier, il y a 4 ans, face à Montpellier. Montpellier, hein, c'est l'une des principales agglomérations françaises, réputée pour sa vie étudiante et régulièrement récompensée du trophée symbolique de ville la plus sportive de France, football, handball et donc rugby. Le club appartient à l'homme d'affaires, Moed Altrad.
C'est le plus jeune club de top 14. On a 30 et quelques années, là où Castres, je sais pas, un siècle. Il n'y a pas d'impatience, on a toute la vie. Et on sait bien, c'est pas parce que vous voulez le Brennus que vous allez l'avoir.
Alors ce Brennus, ce bouclier de Brennus, Montpellier l'a seulement touché du doigt. Deux défaites en finale, en 2011 et en 2018, donc face à Castres. Ce soir, attention, gros défi physique pour les deux équipes. C'est pas forcément l'affiche que tout le monde attendait, mais c'est une affiche avec beaucoup, beaucoup de supporters qui seront présents. Jusqu'à 80 000, on en attend au Stade de France.
Merci Axel. Vous n'allez pas échapper, Axel, à la petite question pronostique.
J'ai envie de dire, mais je vous réponds. J'ai envie de dire le Castre olympique, parce que c'est ce petit village gaulois, c'est souvent comme ça qu'il se représente, c'est ce petit village gaulois dans le monde du top 14.
Bon, coup d'envoi, merci Axel. Coup d'envoi à 20h45 au Stade de France, donc 80 000 spectateurs, vous l'avez dit. Le RERB devrait fonctionner quasi normalement, il y aura des complications sur la ligne D du RER à cause d'une grève. Bon, le match sera à suivre à la radio sur Europe 1 et à la télévision sur Canal+. Voilà, vous savez tout. La météo avec vous Valérie Darmon, les orages se calment peu à peu, hein ?
Effectivement Romain, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont en vigilance orange orage jusqu'en milieu d'après-midi, mais le Tarn et l'Aveyron ne le sont plus. Pluie ou averses localement orageuses se succèdent donc sur ces régions passagèrement intenses, encore accompagnées d'un risque de grêle et de rafales. Les averses s'espacent aussi de la Basse-Normandie à l'Aquitaine ainsi qu'en Occitanie. Et dans quelques heures, après l'accalmie de ce matin, une zone de pluie plus régulière rentre sur le Finistère. Ce passage pluvieux traversera tout le nord-ouest au cours de l'après-midi, avant de se décaler vers le Cotentin et les Pays de la Loire dans la soirée. Cet après-midi d'ailleurs, les valeurs n'excéderont pas 18 à 21 degrés sur l'ouest de la Bretagne, sur le pourtour méditerranéen prévoyé entre 26 et 30, et partout ailleurs entre 22 et 26.
Merci beaucoup Valérie, il est midi 15, restez bien avec nous. Dans un instant, le débat, les débats d'Europe Midi, on va parler du pouvoir d'achat, on va parler du Covid, on va parler d'Elisabeth Borne, tiens, est-ce qu'elle doit rester ou pas? On en parle avec vous au 39-21 et on en parle également avec Bastien Lachaud, député La France Insoumise, et avec Marie Lebec, député Renaissance. A tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Merci d'être avec nous. Le pouvoir d'achat, c'est le sujet du premier texte qui va être examiné à l'Assemblée. Les socialistes, tiens, doivent déposer une proposition de loi avec 5 ou 6 mesures, avec notamment le SMIC à 1500 euros net. C'est ce qu'a dit Valérie Rabault ce matin. On en parle avec vous au 39-21 avec Bastien Lachaud, député LFI de Seine-Saint-Denis, et Marie Lebec, député Renaissance des Yvelines. Bastien Lachaud, tiens, Mathilde Panot, votre présidente de groupe, va s'entretenir cet après-midi avec Elisabeth Borne, je crois que début d'après-midi, 14h45 il me semble. Les LFI vont déposer également une proposition de loi comme les socialistes?
Je pense que ce sera une proposition de loi commune à la NUP. Pas de raison de faire plusieurs propositions de loi alors que nous sommes d'accord sur les mesures sur le pouvoir d'achat.
Bah pourquoi Valérie Rabault a dit ça ce matin?
Valérie Rabault a dit que nous allions déposer une proposition de loi. C'est vous qui surinterprétez les choses. Il y a,
c'est la NUPES.
Exactement.
D'accord.
Donc il n'y a pas de souci là-dessus. C'est ce que nous avons dit lors de notre réunion d'intergroupe hier. Nous allons porter des propositions fortes pour que l'Assemblée puisse s'en saisir, vu que le gouvernement ne semble ne pas avancer sur
cinq ou six mesures, c'est ça?
Oui, des mesures que nous avions présentées devant les Français pendant les élections législatives, le blocage des prix, la baisse du prix du litre d'essence à 1,40 €, le SMIC à 1500 euros. Enfin, tout ce que nous avions dit pendant les élections législatives, nous allons le porter à l'Assemblée nationale, conformément à l'engagement pris devant les électeurs.
Marie Lebec, SMIC à 1500 euros net, va falloir maintenant, on discute, on cherche des coalitions, des accords, de mettre tout le monde autour de la table et que tout le monde soit d'accord. 1500 euros honnête pour le SMIC, vous dites oui, vous dites non? Député
pour l'instant, écoutez, c'est pas une proposition que la majorité porte. Effectivement, on considère que s'il faut revaloriser le travail, ce qu'on a pu faire au cours du mandat précédent, si on peut aussi alléger l'imposition, ce qu'on a pu faire au cours du mandat précédent, alléger un certain, enfin protéger les Français aussi de la flambée notamment des prix de l'énergie, ce qu'on a fait aussi et qu'on veut prolonger, comme l'a rappelé hier Elisabeth Borne, jusqu'à la fin du mandat. Donc on n'est pas en accord sur cette proposition avec au SMIC à 1500 euros, mais effectivement je crois que bon, c'est intéressant de savoir que la NUPES va déposer une proposition de loi sur le pouvoir d'achat. La réalité, c'est que vous savez que la loi, elle est plutôt d'initiative gouvernementale. On va proposer un texte sur le pouvoir d'achat. Il sera toujours bon qu'il y ait des débats, des discussions, des amendements sur le sujet. Je crois qu'il y a un combat commun sur cette question, puisqu'on voit bien que la situation internationale, de reprise, de guerre aussi, met une énorme pression sur le pouvoir d'achat des Français. Et donc, nous, on va arriver avec un certain nombre de propositions qui seront faites dans le cadre du projet de loi qui doit être discuté, là, on avait dit autour du 1er juillet. Je pense que l'échéance restera la même.
Voilà, projet de loi, c'est le gouvernement. Proposition de loi, c'est un député, ce sont les députés qui les proposent. Vous attendez vraiment des propositions des oppositions ou pas?
Bah, vous savez, on l'a toujours fait, on a toujours fonctionné comme ça. Monsieur Lachoux n'est pas d'accord avec moi, mais la réalité, c'est que, l'Assemblée, c'est un lieu de débat. Et donc, en tout cas, il serait absurde que des groupes d'opposition ou même des groupes de la majorité ne fassent pas ces propositions-là. Après, la méthodologie, et c'est notamment ce à quoi a interrogé le président de la République, les différents groupes et également la Première ministre depuis hier et également encore aujourd'hui, c'est de savoir comment est-ce qu'on travaille. Est-ce qu'on travaille sur l'ensemble d'un texte? Est-ce qu'on travaille sur quelques amendements qui doivent être incarnés par des groupes d'opposition? Est-ce que, voilà. Donc c'est aussi ça. Donc oui, de toute façon, il y aura des propositions et tout ça sera étudié comme c'est le cas à chaque fois.
Bastien Lachaud, vous vouliez réagir.
Oui, déjà plusieurs choses. Hein. Nous avons déposé plusieurs milliers d'amendements propositionnels lors de la précédente mandature. Les amendements qui ont été adoptés par la majorité se comptent quasiment sur les doigts d'une main. Donc, ne dites pas que vous avez déjà fait ça avant. La situation parlementaire, maintenant, est nouvelle. Nous avions un exécutif qui était tout puissant et qui, en effet, s'était arrogé le droit de proposer les lois, de proposer les lois aux législateurs. Parce que le législateur, c'est quand même ceux qui font les lois. Dans la Constitution, c'est quand même le...
Mais il y avait surtout une majorité absolue.
Oui, exactement. Comme cette majorité absolue n'existe plus aujourd'hui, il y a une reparlementarisation de la vie politique. Et donc, c'est le Parlement qui aujourd'hui est fort et l'exécutif qui est faible. Donc, aujourd'hui, il faut que le Parlement prenne tout son rôle dans la gestion du pays et avance sur des propositions de loi. Nous avons aujourd'hui un gouvernement qui n'a fait aucune proposition précise sur le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, je vous mets au défi de nous dire ce qu'il va y avoir dans ce projet de loi.
Mais Monsieur Lachaud, d'une, on ne va pas rentrer dans un débat de technicien sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Je ne suis pas sûr que ça intéresserait vos auditeurs.
Ceci dit, une ou deux propositions.
Juste sur le fonctionnement, n'inversons pas les règles. Ce n'est pas une histoire de majorité ou pas de majorité à l'Assemblée nationale. L'initiative de la loi...
La proposition de loi, c'est le Parlement.
Mais l'initiative de la loi, elle est à 90%, quelle que soit la majorité et quelle que soit la composition de l'Assemblée nationale, d'initiative gouvernementale.
À cause des errements de la Ve République, mais c'est
et
pas
ensuite,
grave.
Et ensuite, les députés ont un droit fondamental qui consiste à amender. Sur le pouvoir d'achat, nous n'avons pas les mêmes points de vue.
Mais
quand on met un bouclier fiscal qui permet effectivement de limiter l'augmentation des prix de l'énergie. Quand on décide d'une mesure d'accompagnement des prix de l'essence...
Donc qu'est-ce que vous allez proposer de plus ?
Encore une fois, nous allons prolonger ces mesures conformément à l'évolution de la situation du pays.
Aujourd'hui, nous avons des Français qui ne peuvent pas partir en vacances. Nous avons des Français qui ne peuvent pas se chauffer l'hiver. Nous avons des Français qui n'arrivent pas à la fin du mois à se nourrir ou à nourrir leurs enfants.
D'où le chèque alimentation.
En 2023, vous l'annoncez pour 2023, le chèque alimentation.
Le chèque alimentation dans sa version définitive, peut-être pour 2023, mais vous savez très bien qu'on va prévoir un certain nombre de mesures d'accompagnement.
Je ne le sais pas, vous ne l'avez pas dit.
Mais parce que, le texte de loi n'a pas été présenté conformément.
Attendez, il y a une campagne législative, vous n'avez fait aucune
l'indexation
proposition.
L'indexation des retraites au 1er juillet pour qu'elle puisse augmenter de 4% d'ici, mais ça c'est aussi votre responsabilité. Ce sera, si on veut que l'indexation des retraites, elle passe pour le 9 août, à la date à laquelle sont payées les retraites, il faudra que le texte soit voté en juillet. Donc c'est aussi votre rôle de faire avancer ce texte.
Adeline est avec nous, professeure des écoles. Bonjour Adeline.
Bonjour Romain.
Merci d'être avec nous. Vous nous appelez de Rennes, professeur des écoles.
Oui.
La question que je posais à 10h et à 11h, c'était celle-ci. Est-ce que vous adaptez vos vacances en fonction de la hausse des prix? En clair, est-ce que l'inflation, la hausse des prix, la situation économique a un impact sur vos vacances? Vous dites, je suis à découvert tous les mois.
Oui, tout à fait.
Vous dites, je ne peux pas me permettre de partir en vacances.
Alors, absolument pas. C'est de plus en plus catastrophique parce qu'en fait, mon découvert s'agrandit au fur et à mesure des mois. Donc, je restreins absolument tout et je suis passablement irritée par l'histoire des chèques inflation, etc. Parce que je fais partie de cette catégorie de fonctionnaires qui sert de variable d'ajustement en ce qui concerne les fameuses mesures auxquelles je mets de grands guillemets, puisque moi, je fais partie de cette catégorie qui ne bénéficie ni du chèque énergie, ni du chèque alimentation. Et pourtant, mon point d'indice est gelé depuis plus de 10 ans. Et donc, en plus, l'inflation qui se rajoute, mon budget se rétrécit, mais à vue d'œil.
Qu'est-ce qui augmente le plus ? C'est l'alimentation, l'essence
Alors, c'est l'alimentation, l'essence, c'est-à-dire que là, je me mets à découvert pour pouvoir aller travailler, parce que la réalité, c'est ça. Puisque au 6 de chaque mois, je suis tout de suite à découvert. En ayant tout payé.
En ayant tout payé. Vous êtes locataire, vous êtes propriétaire ?
je suis locataire ouais. Et je rajoute à ça que je suis mère seule avec deux enfants sans pension alimentaire, donc une allocation de soutien aux familles évidemment, mais qui ne couvre pas la totalité.
De la totalité. Vous savez ce que je vous propose, Adeline ? Il est midi 27. Je ne vais pas vous poser d'autres questions. Est-ce que vous acceptez de rester avec nous ?
Bien sûr.
Bon, on se retrouve juste après. Il y a la publicité, le flash. Et on se retrouve avec vous, avec les autres auditeurs qui appellent au 39-21, avec Marie Lebec, députée Renaissance, la majorité relative à l'Assemblée. Et avec Bastien Lachaud, député La France Insoumise, qui a un message à vous faire passer. À tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Il est midi et demi, merci d'être avec nous dans Europe Midi. Tout de suite, c'est juste avant le retour du débat, bien sûr. C'est Émilie Dez pour le flash, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Bonjour Émilie.
Bonjour Romain, bonjour à tous. Le début de l'été s'annonce compliqué sur les rails. Les cheminots sont appelés à faire grève le 6 juillet pour réclamer des hausses de salaire. Et donc, juste avant le début des vacances scolaires, les hôtesses de l'air et les stewards de Ryanair ont pris, eux, un peu d'avance avec un mouvement de grève dès ce week-end, appel à débrayer aussi d'un syndicat espagnol chez EasyJet. Elisabeth Borne poursuit ses consultations. La première ministre va rencontrer dans la journée les chefs des groupes parlementaires. Elle dit ne pas savoir si elle engagera sa responsabilité à l'issue de son discours de politique générale prévu le 5 juillet. Et les forces ukrainiennes ont reçu l'ordre de se retirer de Severodonetsk, cette ville clé pour la quête du Donbass. Selon le gouverneur régional, Severodonetsk a été presque réduite en ruines par les bombardements continuels. Le procès des attentats du 13 novembre, les avocats de la défense vont prendre la parole pour éviter la prison à vie à Salah Abdeslam. Le parquet a requis la perpétuité incompressible à son encontre. La septième vague est là. Depuis la fin mai, les cas de Covid ont été multipliés par 3 dans 25% des cas. C'est la faute au BA5, variant d'Omicron. Il est plus contagieux et les symptômes sont plus marqués. 5 départements de la vallée du Rhône et de la Savoie sont maintenus en vigilance orange aux orages. Des orages souvent accompagnés de grêles et de fortes rafales de vent. Et puis du rugby, finale du top 14 ce soir entre Castres et Montpellier. Coup d'envoi de la rencontre à 20h45.
Merci Émilie, on vous retrouve dans une demi-heure à 13h. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Midi. Informez-vous avec Romain Desarbres sur Europe 1.
Les questions de pouvoir d'achat au cœur de l'actualité. Elisabeth Borne, la Première ministre, consulte les présidents des différents groupes parlementaires. Et on est avec Bastien Lachaud, député LFI, la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, et Marie Lebec, députée Renaissance des Yvelines, et avec Adeline, qui est professeure des écoles et qui nous appelle de Rennes. Merci d'être restée avec nous, Adeline. Vous nous disiez que tout augmentait pour vous, essentiellement l'alimentation, que vous aviez des difficultés dès le 6 du mois, une fois que vous aviez payé le loyer et fait le plein du frigo et du congélateur. Hein, c'est ça, en réalité, que vous nous décrivez.
Oui.
Hein.
Oui. Plus l'essence qui ne cesse d'augmenter. Et malgré la mesure de 18 centimes prise par le gouvernement, ça a un effet totalement placebo sur la facture d'essence au final.
Alors, je disais qu'il y avait Bastien Lachaud qui avait un message pour vous.
On est dans une situation complètement absurde. On parle de fonctionnaires qui assurent l'avenir de nos enfants et le cas d'Adeline, on peut le porter sur tous les Français qui aujourd'hui s'endettent en se mettant à découvert pour payer l'essence pour aller travailler. Donc il faut prendre des mesures immédiates et radicales sur les fonctionnaires, sur les enseignants. Il faut rattraper le point d'indice, il faut l'augmenter de 15% immédiatement pour rattraper le retard et soulager les gens. Il faut augmenter le SMIC. Il n'y a pas de solution dilatoire parce que faire des chèques, au final, qui va les payer ces chèques ? Les Français ? Les Français
Monsieur Lachaud, pardon, mais enfin, qui va payer l'augmentation des enseignants ? Qui va payer l'augmentation du SMIC à 1500 euros ?
C'est exactement bien sûr que non.
Je ne vous ai pas interrompu. SMIC. Non, mais
laissez-moi
d'accord,
terminer.
Mais si vous m'avez interrompu tout à l'heure, mais c'est pas grave. Mais arrêtez de dire les chèques, il faut les payer et l'augmentation des enseignants ou des fonctionnaires plus largement, il ne faut pas. Oui, c'est exactement la même chose.
Non, ce n'est pas exactement la même chose. Parce que vos chèques vont servir à aller alimenter les profits des multinationales parce que vous refusez de bloquer les prix. À quoi ont servi les 18 centimes sur le prix du litre ? À engraisser les multinationales de l'énergie qui voient leurs bénéfices exploser alors que vous avez refusé de bloquer les prix. Faire des chèques, c'est donner l'argent directement aux grandes entreprises. Alors que bloquer les prix, augmenter les salaires, le SMIC, ce n'est pas l'État qui le paye. Et augmenter les fonctionnaires, je suis désolé, mais ça fait plus de 10 ans que ce point d'indice est gelé. Vous pensez vraiment que c'est honteux d'augmenter le point d'indice des fonctionnaires ?
Non mais ne dites pas n'importe quoi, pardon.
Qu'est-ce que j'ai dit n'importe quoi ?
Mais quand vous dites l'échec, c'est les Français qui vont les payer, mais pardon, la fonction publique, ce sont aussi les Français qui les payent.
Mais à partir du moment où on bloque les prix, l'argent, il va dans la poche des Français. Mais... il ne va pas dans les poches des multinationales.
Bastien Lachaud, on a entendu votre point de vue. Marie Le Bec, qu'est-ce que vous dites à Adeline?
Non, mais déjà, ce que je voudrais dire à Adeline, c'est toujours très difficile, effectivement. Moi, j'ai aussi des enseignants dans ma circonscription parce que c'est assez cher de s'y loger.
Je vous coupe une seconde, madame la députée. Adeline, pour parler très concrètement, vous gagnez combien chaque mois?
Allô?
Oui, Adeline.
Pardon.
Oui.
Non, je croyais avoir été coupée.
Non. Pour parler très concrètement, vous gagnez combien chaque mois? En bas à droite de votre fiche de paye, il y a marqué combien?
2150 € après 12 ans d'ancienneté.
2150 € net par mois après 12 ans d'ancienneté. Bon.
Ouais.
Marie Le Bec.
Non mais d'une, il y a plusieurs choses. Déjà, je voudrais quand même dire un mot à Adeline, parce qu'effectivement, quand vous entendez une mère de famille qui est seule, qui travaille et qui a du mal, voire qui est dans une situation financière très difficile, c'est toujours difficile de ne pas éprouver de sympathie envers la personne.
Net,
exactement.
Un tout petit peu mieux.
Ensuite, la deuxième question, c'est effectivement dire on a fait des mesures d'accompagnement qui permettent de limiter l'inflation, et le sens du projet de loi à venir, c'est poursuivre à la fois ces mesures d'accompagnement et les compléter, et notamment c'est ce qu'on disait par exemple sur les retraités. Alors c'est pas la situation de Adeline actuellement, mais sur les retraités, revaloriser les pensions de retraite. Ensuite, le projet de loi sera présenté le 29 juin, donc il y aura tout un tas de mesures qui vont être présentées. Je suis étonnée aussi peut-être, mais encore une fois, ne connaissant pas sa situation dans le détail, pour les femmes seules, je ne sais pas pourquoi Adeline ne perçoit pas de pension de reversion, mais on a fait dans le quinquennat précédent des mécanismes qui permettent effectivement pour les femmes, quand elles y sont éligibles, de toucher la pension alimentaire pour leurs enfants. Donc, il faut peut-être. C'est difficile de parler dans un cas particulier dans les détails. Ce qui est sûr, c'est que de toute évidence, il y a une volonté à la fois de protéger le pouvoir d'achat des Français. Mmh. Et puis, pour les enseignants, il y avait entamé avec Jean-Michel Blanquer à la fin du mandat précédent des discussions autour de la revalorisation salariale. Et je pense qu'elles seront poursuivies par le ministre de l'Éducation nationale actuelle, Pap Ndiaye, sur les engagements pris par le président de la République pendant la campagne.
Très rapidement, il faut quand même avoir en tête qu'au début des années 80, un enseignant débutant toucher 2,5 fois le SMIC. Aujourd'hui, on est à 2100 €, 12 ans. Après 12 ans d'ancienneté, pour un SMIC à 1300 €. Donc on a là une dévalorisation de la carrière des enseignants. Il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, nous n'arrivions pas à recruter, que vous n'arriviez pas à recruter, qu'aujourd'hui, nous avons des classes où il n'y a plus d'enseignants. Moi, dans mon département, dans ma circonscription, les profs ne sont plus remplacés parce qu'il n'y a personne qui veut venir faire le job. Donc oui, il y a une dévalorisation du métier. Et de refuser d'augmenter le point d'indice massivement pour rendre justice aux enseignants qui sont quand même l'avenir de la nation, parce que c'est eux qui forment nos enfants, je pense qu'il y a un problème.
Merci Adeline de nous avoir appelé au 39-21. On est à présent avec Charles, 60 ans, vous nous appelez du Lot-et-Garonne. Bonjour Charles.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour, merci d'avoir appelé le 39-21. Vous êtes retraité, vous exerciez quelle profession ?
J'étais au ministère de la Défense en tant que militaire.
En tant que militaire, d'accord. Et, vous dites, je pense qu'il faut adapter notre comportement en fonction des situations que l'on traverse. Là, on retrouve la rigueur, en tout cas l'état d'esprit militaire. La question est, est-ce que vous adaptez vos vacances en fonction de la hausse des prix ? C'était pour amener le débat sur le pouvoir d'achat. Vous vous dites, faut s'adapter. Quand il y a de l'argent, il y en a. Quand il y en a moins, il y en a moins. C'est ça, non ?
Et tout à fait, c'est-à-dire que nous, au niveau militaire, on faisait avec et du mieux possible. Donc moi, je pars du principe qu'en situation de crise, nous devons peut-être en tirer aussi du positif. Alors le positif, c'est adapter nos vacances en fonction de notre budget, bien entendu. Mmh. Et ensuite, on peut visiter la France, c'est un beau pays, et ne pas aller prendre l'avion pour aller à l'étranger. Il y a trois, éléments positifs. Donc, écologiquement, vous n'utilisez pas l'avion, donc l'écologie, c'est très bien.
Bon.
Économiquement, vous injectez l'argent que vous avez pour les vacances au niveau de la France et des entreprises françaises. Donc, ça fait des impôts, la TVA, etc. Et ensuite, votre pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez l'impression que vous visitez autant, sauf que vous apprenez à visiter votre propre pays, et la France est un beau pays. Donc c'est pour ça que je dis, souvent, j'ai entendu M. Lachaud qui disait « oui, il faut donner toujours plus ». Mais arrivé à un moment donné, en situation de crise, avec la guerre qu'il y a en Ukraine, avec, l'inflation qui va augmenter, avec l'augmentation des prix, Il faut arrêter un petit peu, je dirais, de penser que la France est en déclin total, comme j'entends parler souvent. Mmh. La France est un très beau pays et je pense qu'il faut la découvrir et surtout amener les Français et les Françaises à faire un effort dans cette situation pour pouvoir, je dirais, amortir, je dirais, toutes ces augmentations à venir. Parce que
l'inflation, on n'en a pas fini, hein. Faut pas se leurrer. Hein. C'est un peu plus de 5% ces 12 derniers mois. On parle de 7% pour l'année prochaine. On n'en est pas sorti, j'allais dire, on n'est pas sorti oui. de l'auberge. En tout cas, on en sortira a priori pas l'année prochaine. Je veux dire, je suis pas bien loin de penser comme vous. C'est plutôt une bonne nouvelle que de partir en vacances en France. Ça fait travailler les restaurateurs, ça fait travailler ceux qui travaillent sur les autoroutes, ça fait travailler ceux qui travaillent à la SNCF, ça fait travailler tout le monde, les hôteliers accessoirement, les restaurateurs, je l'ai dit. Bastien Lachaud veut vous répondre, Charles.
J'ai été interpellé. Moi, je suis bien d'accord. Hein, allons visiter la France. En plus, en termes de bilan carbone, tout cela est bon pour le climat. Moi, juste, je serais d'accord avec vous si nous étions dans une telle crise. Et je suis d'accord avec vous pour dire que la France n'est pas en déclin, que la France est un beau pays, que la France est un grand pays et que la France est un pays riche. Et juste, je vais vous donner un chiffre. Entre mars 2020 et octobre 2021, pendant la crise Covid, les richesses des grandes fortunes françaises ont bondi de 86%, soit 236 milliards d'euros. 236 milliards d'euros pour les plus riches de ce pays, pour les quelques-uns, les 1% les plus riches. Donc, quand on me dit il n'y a pas les moyens d'augmenter les salaires, il n'y a pas les moyens d'augmenter les fonctionnaires, il n'y a pas les moyens de faire payer les grandes entreprises en limitant leurs bénéfices, en bloquant
les prix... Mais vous parlez de la valeur de la bourse qui a monté et qui redescend en ce moment.
Non. Vas-y. c'est 236 milliards.
Oui, non, mais d'accord, alors, on peut jeter les milliards comme ça, mais c'est la valeur de la bourse. C'est de la fortune professionnelle, donc en fait, ce sont des entreprises, petit
un. Non. Je parle des fortunes privées. Je parle de M. Bernard Arnault, etc.
Mais c'est de l'action, donc si ça redescend, il y aura des milliards en moins.
Mais excellent. Très bien. Mais alors si ça ne veut rien dire, la dette non plus ne veut rien dire, parce que c'est du papier.
Ça ne veut pas rien dire.
C'est ce que vous venez de me dire. Quand les riches s'enrichissent, ça ne veut rien dire, et ce n'est pas grave, laissons-les s'enrichir, et on ne peut rien faire de cet argent.
Et quand on dit taxer, ça vous pouvez toujours. C'est de la politique, ça.
On peut taxer.
Mais c'est des orientations politiques.
Oui, exactement. Et que nous ne prenons pas. Voilà, Marie Lebec.
Donc on peut le taxer. Et avec l'argent taxé, on peut financer l'augmentation des salaires. Merci de l'avoir admis.
Alain. Charles.
Charles, pardon.
Bastien Lachaud en face de vous et Charles au téléphone.
Pardon Charles, excusez-moi. Non mais je me permets effectivement de rebondir sur votre propos. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fois, nous avons plusieurs objectifs et plusieurs responsabilités. On doit protéger nos concitoyens de l'explosion de l'augmentation des matières premières, de l'augmentation des prix de l'alimentation, etc. Ça, c'est une évidence. Et je pense qu'on le fait mieux que dans la plupart, enfin en tout cas différemment que dans la plupart des pays européens, puisque quand on regarde les niveaux d'inflation dans d'autres pays, c'est très important. Ensuite, on doit créer les conditions d'avoir une économie qui se développe, des emplois qui continuent de se créer. Je pense qu'une vraie réussite du mandat qui vient de s'écouler, c'est la baisse du chômage, parce que c'est aussi, et nous avons des divergences fondamentales sur ça avec la France Insoumise, c'est aussi parce que vous créez de l'emploi, parce que les gens peuvent vivre de leur salaire, vous permettez finalement de vivre du moins. Je pense que nous en avons largement créé au cours du mandat précédent, Monsieur Lachaud, et je pense que peu de Français vous rejoindront sur ce point. Donc effectivement, nous créons le climat et le contexte favorable pour le développement économique de notre pays, à la fois pour les entreprises et pour ensuite les salariés. Et enfin, je crois qu'aussi nous devons tenir un discours responsable, comme vous l'avez fait à l'instant, et dire que effectivement, l'inflation va continuer, la guerre en Ukraine ne va pas cesser du jour au lendemain, les conséquences de la guerre vont probablement se voir dans les mois qui viennent, et je crois que là, la réponse européenne est importante, que ce soit en matière d'énergie, en matière d'alimentation, beaucoup de mesures sont prises et j'espère qu'elles permettront d'amortir au mieux les conséquences, mais effectivement on risque d'avoir encore l'année prochaine des répercussions.
Juste un mot sur les vacances. On parle des personnes qui vont adapter leurs vacances. Moi, je voudrais quand même penser aux millions de Français qui ne peuvent pas partir en vacances, qui ne pouvaient pas partir en vacances avant la crise, qui ne peuvent pas partir en vacances après la crise. Moi, je vois dans ma circonscription, et je salue le travail des associations comme le Secours Populaire, par exemple.
La Seine-Saint-Denis.
Oui, exactement, le Secours Populaire, qui emmène les enfants voir la mer un jour par an, parce que c'est peut-être des fois à 15 ans, 10 ou 12 ans, la première fois qu'ils auront vu la mer. Donc, voilà, voilà de quoi on parle. On parle d'un pays où des millions d'enfants ne peuvent pas partir en vacances.
Merci Bastien Lachaud, député LFI de Seine-Saint-Denis, et Marie Lebec, députée Renaissance des Yvelines. Restez bien avec nous, beaucoup d'appels. Beaucoup d'appels au 39-21. Merci beaucoup Charles. Vous nous avez appelé du Lot-et-Garonne, retraité, militaire à la retraite. Et auparavant, c'était Adeline, professeur des écoles. Il est 1h moins le quart. Bon appétit si vous êtes à table. C'est l'heure, évidemment. On se retrouve dans un instant. A tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Les questions de pouvoir d'achat, on en parle évidemment avec Bastien Lachaud, député LFI de Seine-Saint-Denis, Marie Lebec, députée LREM des Yvelines. Et puis on va parler également un peu de politique. Tiens, est-ce que LFI est dans l'arc républicain ou pas? Je vous pose la question, Marie Lebec, parce que Elisabeth Borne estime que ni le RN ni la France Insoumise n'ont prouvé ces 5 dernières années que ces deux partis étaient dans l'arc républicain. Elle l'a dit hier soir sur LCI.
Écoutez, sur cette question, moi je crois qu'on est très clair. Effectivement, La République En Marche porte des valeurs qui sont extrêmement différentes de celles du Rassemblement National, de la France Insoumise, des valeurs que nous combattons, des projets de société que nous combattons. Ensuite, il y a la question de leur représentation à l'Assemblée Nationale. Et vous constaterez comme moi qu'ils ont été reçus par le président de la République, enfin les chefs de parti ont été reçus par le président
J'allais
de la République.
Heureusement.
Mais bien sûr, les chefs de groupe sont reçus. Mais
non,
mais
pardon.
Mais non, mais les chefs de groupe sont reçus par la première ministre et les députés ne sont pas de ces deux partis, ne sont pas des sous-députés. Ils n'ont pas moins de pouvoir que des députés de la République En Marche, que des députés LR, etc. Après, effectivement, ce sont des projets de société et des valeurs sur lesquels il arrive assez peu souvent que nous soyons d'accord.
Non, mais l'arc républicain, il n'est pas dans l'arc républicain. Ça veut dire, en clair, il n'est pas dans la République, quoi. Enfin, bon, si on va droit au but, le Rassemblement National ou LFI sont élus, j'ai pas l'impression que soit hors de la République. Je comprends pas bien ce que ça veut dire, qu'on en soit, pour tout vous dire, encore là.
Bah, écoutez, moi je vous dis très clairement, le sujet c'est de dire est-ce que
ce soit le RN ou
non,
LFI.
Mais est-ce qu'on converge sur des visions de société, etc.
Clairement, c'est ça.
Enfin, le sujet il est là. Souvent on nous dit oui, mais alors du coup vous allez.
C'est une espèce
d'excommunication
républicaine, vous voyez, dire oh, ils sont pas dans le. Bah, si.
Oui, mais enfin, pardon, c'est comme considérer que tous les députés de La République En Marche sont des députés Playmobil, vous voyez, c'est un peu de ce niveau-là.
Non, c'est autre chose.
Le sujet, c'est de dire, est-ce qu'on tombe d'accord sur la vision de la société? Non, très clairement. Et oui, parfois, il y a des points très durs de désaccord entre le Rassemblement National et la France Insoumise et nous. Des choses sur lesquelles, pardon, mais moi, il me semble aberrant, parfois, d'avoir un leader politique qui dit « la police tue ». Vous voyez, ça fait partie des sujets et des valeurs qui, je crois, nous écartent finalement de ce que nous considérons comme être la défense de notre État, de nos institutions, de ceux qui les représentent, etc. Donc voilà, après, encore une fois, ils sont élus, ils ont des représentants élus à l'Assemblée nationale, ils n'ont pas moins de pouvoir, ils ne sont pas moins bien considérés par le pouvoir majoritaire, enfin par le président de la République, par la première ministre. Donc voilà, je crois que l'essentiel est là.
Bastien Lachaud, quand Jean-Luc Mélenchon écrit « La police tue », il dérape, effectivement. Non, effectivement. Est-ce qu'il sort de l'arc républicain?
Remettons un peu l'église au centre du village.
Ah.
Quand Jean-Luc Mélenchon dit « la police tue », c'est un fait. La police tue. La question c'est, est-ce qu'elle a le droit de le faire dans les conditions qu'elle le fait?
Bah oui, c'est la seule.
Oui et non.
Oui.
Attendez, vous anticipez sur les décisions de justice. La justice a quand même mis en examen des policiers pour meurtre. Donc
c'est la seule qui a le droit d'utiliser la violence.
Qui a le droit d'utiliser la violence légitime de l'État.
Voilà.
Mais ça, bien sûr.
C'est le principe même de la police.
Bien sûr. Encore faut-il qu'elle le fasse à bon escient. Et c'est là que la question que nous posons sur la doctrine de l'emploi de la force. Et d'ailleurs, la justice, je le répète, a mis en examen des policiers pour meurtre. Donc poser la question de dire « la police tue », c'est un fait. Poser la question de la doctrine du maintien de l'ordre, c'est un droit républicain. Ensuite, moi j'aimerais quand même, c'est quand même fort de café, de mettre dans un sens, dans le même sac, LFI et le Rassemblement National. D'ailleurs, le président de la République s'y est bien gardé. Et lorsqu'il a vu Adrien Quatennens, notre coordinateur, il lui a bien précisé que, évidemment, que LFI était une force républicaine et qu'il nous mettait au défi de trouver une seule de ces expressions qu'il remette en question. Donc, il serait bon que Mme Borne, si elle a la confiance du président, soit sur la même position. Premier élément. Deuxième élément, l'histoire de la France insoumise dans le temps long de l'histoire de la République, nous descendons quand même des résistants de 40, des opposants au fascisme, etc. etc. Nous n'avons pas de brevet de républicanisme à recevoir de qui que ce soit. De qui que ce soit. Ni du président de la République, ni de Mme Borne, ni de vous-même.
Marie Lebec.
Et on ne peut pas en dire autant de l'histoire du Rassemblement National, dont ses fondateurs étaient des collaborateurs vichistes alliés des nazis allemands.
Qui les fondateurs.
Les fondateurs du Rassemblement National et du Front National. Donc, mettre aujourd'hui, sur un plan d'égalité, des résistants face au fascisme et au nazisme et à l'extermination des Juifs de 1940 et ceux qui étaient les soutiens de ce régime, je pense que c'est fort de café.
Marie Lebec.
Mais le sujet, c'est pas de savoir. Écoutez, ces deux partis sont élus à l'Assemblée nationale. Le sujet, je crois que c'est un sujet avant tout de fond et de vision politique, de vision de la société, de conviction que nous partageons. Et très clairement, nous ne partageons pas avec ces partis aujourd'hui des convictions et des. Je crois que Elisabeth Borne, dans son interview d'hier,
ne pas partager des convictions,
oui, c'est
ça, c'est le principe,
c'est
ça. De la,
c'est
le principe de la démocratie.
Mais pardon, c'est
pas le sujet là. Le sujet, c'est l'arc républicain, ça veut dire c'est hors
mais
de la République.
Fois, je veux dire.
Le RN et les...
Ils sont traités de la même façon.
Juste que vous êtes d'accord avec le président Macron.
Encore une fois,
ça ira plus vite.
Mais bien sûr, je suis pas d'accord avec le président de la République. Mais pardon, encore une fois.
Elle est d'accord avec le président Macron plus qu'avec la première ministre.
Mais non, mais pardon, le sujet, il n'est pas. La question est de dire. Des partis qui ne seraient pas traités de la même façon que l'ensemble des partis politiques, je crois que la question serait le bienvenu de se poser. Les chefs de ces deux partis, les représentants à l'Assemblée nationale de ces deux partis, sont reçus tant par le président de la République que par la première ministre. Le fond du sujet est de dire comment est-ce que nous allons construire l'Assemblée qui va venir, les débats qui vont venir. Est-ce que nous nous retrouvons avec la France insoumise ou le Rassemblement national sur la vision de la société qu'ils défendent, eh bien, à 90%, à 98%, c'est assez rarement le cas, pardon de le dire, avec cette franchise. Les débats qui vont venir dans les mois prochains seront intéressants pour voir quels sont, maintenant que ces partis sont plus en capacité de faire des propositions, et notamment pour le Rassemblement national, intéressant de voir comment est-ce qu'on passe d'une simple opposition et contestation à effectivement la volonté de participer au débat démocratique et politique
en tout cas,
à l'Assemblée nationale.
Vous étiez beaucoup plus clair dans l'entre-deux-tours des élections présidentielles quand vous cherchiez les voix de nos électeurs face à Marine Le Pen.
En quelques mots, Elisabeth Borne, elle doit rester ou pas à Matignon, tiens Marie Lebec.
Écoutez, Elisabeth Borne, très rapidement, mais d'une, c'est au président de la République de décider.
Non,
et de
c'est
deux,
à l'Assemblée nationale.
C'est au président de la République de décider.
C'est
lui qui nomme la première ministre.
C'est le président
et en
qui
un
nomme
mot très rapide,
ministre, oui.
Elle a à la fois toutes les capacités à gérer le gouvernement et aussi toutes les capacités à mener les négociations qui doivent avoir lieu à l'Assemblée. Elle l'a fait par le passé dans d'autres fonctions et je crois qu'elle sera encore capable de le faire pour les mois.
Le président nomme la première ministre. Mais c'est l'Assemblée nationale qui lui accorde sa confiance. Elle doit venir devant l'Assemblée nationale demander la confiance du peuple.
Et pour l'instant, elle n'a pas dit si elle allait...
Ce n'est pas
une obligation après le discours de politique générale. Vous aurez la possibilité, je crois, de déposer une motion de censure si vous le souhaitez.
Donc autant l'éviter et autant assumer sa politique.
Je ne crois pas que vous l'éviterez.
Merci à tous les deux. Merci Marie Lebec, députée Renaissance des Yvelines. Et merci Bastien Lachaud, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Merci à vous tous de nous avoir appelés au 39-21, aussi nombreux, 12h56. On est avec Elisabeth Assayac. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Romain.
Pour la France Bouge.
Pour la France Bouge et nous on vous retrouve lundi.
Lundi.
Lundi à midi sur Europe 1.
À lundi.
À lundi.
Europe Midi.